Pardonnez-moi, je voudrais juste mettre mon chrono parce que je suis soucieux du temps qui passe. Chronomètre, non pas chronomètre, plutôt ça, car une heure, alors on va mettre une heure, toc. Donc, je voudrais au préalable, et avec l'autorisation des personnes concernées, ajouter juste un petit mot relativement à ce que vous avez entendu en fin de matinée et relativement à l'action, puisqu'on parle d'engagement, non pas là d'un collectionneur, mais de Barthélémy Togo, car il n'a pas parlé de ça. Je connais, vous l'avez peut-être compris très bien, Barthélémy, et je suis allé à Banjoun au Cameroun pour voir ce qu'il y faisait. Et je voulais absolument que l'on sache qu'il y constitue une collection. Cette collection, elle est faite tantôt par des achats sur ses propres deniers, tantôt par des échanges avec les artistes qu'il rencontre dans son nomadisme permanent, il est déjà parti, tantôt avec ses galeristes sur les revenus qui lui reviennent et qu'il coupe un petit peu pour pouvoir récupérer, je ne sais pas, une œuvre d'un tel chez Lelong qui l'intéresse pour cette collection de Banjoun Station qui est présentée en permanence au quatrième étage du bâtiment qu'il a construit. Il y a trois niveaux d'expo. Et offrir à ceux qui passent, ceux qui y séjournent potentiellement, l'occasion de découvrir ce qu'il en est de l'art contemporain, toute frontière considérée. Donc, je voulais le dire parce que je connais trop bien Barthélémy, je sais tout ce qu'il fait et j'ai beaucoup d'estime pour cette forme d'action, entre autres. Voilà, c'était juste un petit préalable qui me tenait à cœur pour lui. Donc, comme vous l'avez lu, dans un premier temps, nous allons nous intéresser dans cette question de l'engagement des collectionneurs sur la scène artistique à la problématique, disons-le, des regards croisés entre collections privées et collections publiques. J'ai relevé sur le texte qui est affiché au musée à l'entrée de l'exposition une citation de Jacques Thuillier, honorable et plus que respecté historien d'art. Je l'avais noté, puis je l'ai perdu, mais ce n'est pas grave, je me souviens, que celui-ci abordait le fait de collection, notamment au regard de trois actions, chasser, amasser, ordonner. Je ne me trompe pas, Christine, c'est bien cela. Je crois qu'il s'agit là quand même d'une forme de définition qui est aujourd'hui non pas obsolète, car ça participe pleinement de la dynamique du collectionneur, mais qui n'est surtout pas suffisante. Et précisément parce qu'il y a cet acte d'engagement qui m'intéresse, enfin qui nous intéresse tous. Alors beaucoup a été dit depuis 24 heures maintenant, bientôt, sur toutes les transformations fondamentales que le PAF, je ne parle pas du paysage audiovisuel, mais du paysage artistique français, que le PAF a connu depuis, allez, il faut bien le dire clairement, depuis le début des années 80. On n'aurait pas eu la chance de ce qui s'est passé à ce moment-là, je pense, je ne suis pas sûr qu'on soit là tous ensemble. Le phénomène de l'intérêt pour l'art contemporain s'est considérablement développé. Les musées se sont refait une santé, et ce n'est pas Sophie Lévy, directrice des musées de Nantes, qui me dira le contraire, par rapport à cette magnifique bâtisse qu'elle dirige, et dont je me souviens avoir vu dans les années 70 les tentures de velours rouge et aucun art contemporain sur les cimaises, qui me contredira. Évidemment, on ne va pas refaire toute l'histoire, mais tout ce que cela a entraîné, Henri Griffon, c'est une façon aussi de les présenter, vous avez compris, Henri Griffon qui est à côté de moi et qui préside le FRAC Pays de Loire depuis, il me corrigera si je me trompe, une vingtaine d'années, les FRAC, votre serviteur a été membre du comité technique du FRAC du Pays de Loire. C'est le premier, d'ailleurs, que j'ai eu la chance, auquel j'ai eu la chance de participer. Mais en 28 ans, j'ai fait 6 comités de technique de FRAC, plus le FDAC de Seine-Saint-Denis, le FNAC. Donc, là-dessus, je crois qu'on a beaucoup de choses à se raconter. Et puis, évidemment, comment tout cela, toute cette mise en place, les centres d'art, bien entendu, ça a entraîné une dynamique qui fait que, voilà, quelques décennies plus tard, eh bien, il y a des colloques, il y a des publications, merveille. Pour quelqu'un qui aime l'art, je peux vous dire que c'est plus que rassurant. Quand on se baladait dans les années 60, sans que je sois diplodocus, je peux vous dire que l'art contemporain, c'était vraiment vache maigre. Mais alors, total. Et puis, évidemment, l'action de tous les collectionneurs. Evelyne et Jacques Deray sont là, et tout de suite, je vais le dire comme ça, et puis on s'est mis d'accord là-dessus. Evelyne et Jacques Deray sont collectionneurs. Ça n'est pas un couple. Si, c'est un couple, pardon, hein, je voudrais pas qu'il y ait de problème. C'est un couple dans la vie civile, très soudé et passionné par l'art contemporain, mais c'est un couple différent dans la collection. Et je crois que je peux m'autoriser à le dire, puisque je les connais bien et que je l'ai déjà utilisé à la formule. Si Evelyne est plutôt du côté d'une collection figurative expressive, Jacques est beaucoup plus sur le versant d'une collection construite et abstraite, pour le dire très simplement. Vous voyez qu'on est dans deux antinomies là. Enfin, dans une antinomie, pardon. Ensuite, ce qui est précisément le signal, je dirais, d'un dynamisme qui, vous l'avez déjà compris par l'espèce de forme d'entraînement et de passion qui m'anime, de cette situation, et qui fait que, évidemment, ça pose plein de problèmes, on les a évoqués tout au long de ces 24 heures, c'est donc la présence de Dominique Gagneux, qui est conservatrice, et qui va donc mettre en place le futur musée de Fontevraud. Quand j'ai vu dans le programme Musée Futur Montfontevraud, j'ai complètement halluciné et je me suis rappelé que les premières sessions du FRAC Pays de la Loire en tant que comité technique, c'était à l'abbaye de Fontevraud avec Mario Torrent. Donc voilà. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est d'aborder cette question et tous ces questionnements autour des regards croisés collection privée, collection publique, en interrogeant tout de suite Sophie Lévy, directrice donc des musées de Nantes.
Non,
du musée des Beaux-Arts de Nantes.
Oui.
C'est cela.
Oui.
Directrice du musée des Beaux-Arts de Nantes. Alors, l'idée, c'est de s'intéresser comment cette relation entre collection privée et institution publique, institution muséale, peut trouver sa place. Et d'emblée, il me semblait intéressant de parler de la question soit des dons, soit des donations, terminologie juridique que je lui demanderais peut-être d'évoquer sans qu'on tombe trop dans des labyrinthes complexes, sémantiques, et puis aussi la question des dépôts. Parce que ce qui est très important et ce qui constitue un des fers de lance de la relation entre collection privée et collection publique, je crois, c'est aussi cette façon que certains collectionneurs ont de mettre en dépôt des œuvres dans l'espace des collections publiques. C'est une pratique, je me souviens l'avoir découvert, notamment dans les années 80, quand j'ai beaucoup circulé en Allemagne. En Allemagne, c'était très, très récurrent. Je me souviens, à Mönchengladbach, la collection de je ne sais plus quel artiste allemand, prêtait tous ses Beuys. Le musée ne bénéficiait que de cela. D'ailleurs, il les a retirés, donc le musée, boum. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec la collection de Charme par rapport à Barcelone. Donc, Sophie, s'il vous plaît, s'il te plaît, puisqu'on se connaît bien, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'il en est au regard donc du musée que tu diriges, de cette relation à travers ces éléments, de, enfin, ces mots de don, de donation et de dépôt.
Que ça marche. Voilà. J'ai envie de parler d'abord du LAM, parce que j'ai dirigé auparavant le musée de Villeneuve-d'Ascq, le LAM qui était un musée créé par des collectionneurs. Donc, du coup, ça en donne une tonalité radicalement différente, c'est-à-dire que dans son ADN de naissance, sans les collectionneurs, il n'aurait pas existé. Il y avait cette incroyable et merveilleuse collection du tilleul Mazurel. Ensuite, il y avait eu des acquisitions d'art contemporain qui avaient été faites au fil de l'eau par les conservateurs. Et ensuite, deuxième collection, Joëlle Pigeaudier, qui était la directrice à l'époque, était allée chercher justement la racine, qui cherchait un lieu pour accueillir leur collection d'art brut. Et c'est devenu le musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut. Et donc, c'était très intéressant, parce qu'il y avait ces deux collections de collectionneurs, même si la racine, c'était un collectionneur collectif. Mais il y avait
à racine, hein, pour que tout le monde l'entende bien, parce que tout le monde ne connaît pas.
L apostrophe, voilà. À racine. C'était une des associations qui, quand Dubuffet a donné sa collection à Lausanne, a décidé de défendre l'art brut en France. Et donc, ils voulaient donner leur collection à un lieu muséal. Et finalement, ils ont choisi Villeneuve-d'Ascq, qui était un choix assez audacieux. Et aussi un choix audacieux de la part de Villeneuve-d'Ascq d'accueillir dans un musée d'art moderne et contemporain une collection d'art brut. C'était le premier musée à faire ce choix d'une rencontre avec l'art brut. Mais ce qui était très frappant pour moi, c'est que la collection d'art contemporain, qui contenait de très belles pièces, elle n'avait absolument pas, n'arrivait pas à la saveur, le charme, la force, l'esprit qu'avaient les deux autres collections. Et tout simplement parce que dans une collection de collectionneurs, mais là on est au très haut niveau quand même, c'était deux collections très fortes, très puissantes et faites sur de très nombreuses années.
Et permets-moi, je voudrais juste faire une incise, mais je vais le faire souvent pour dynamiser
N'hésite
le débat.
Pas.
Est-ce que je me trompe ou non pour dire, et peut-être apprendre à beaucoup d'entre vous, que c'est la cinquième collection cubiste au monde, d'après ce qui m'avait été dit à l'époque par Joëlle Pigeaudier?
Alors, sur les
sur la collection, à partir de Mazurel.
Les hiérarchies collections, je ne sais pas. Mais parce que, et surtout, maintenant, le Met a peut-être dépassé tout le monde depuis
depuis que
Lauder a offert sa collection. Mais bon, donc...
Énorme collection.
Donc, toujours est-il que ce qui était évidemment frappant, c'est qu'il y avait deux collections de collectionneurs qui avaient des défauts. Ce n'est pas la question. Qui avaient des, par exemple, Dutilleul était absolument fasciné par des artistes qui n'ont pas forcément été reconnus par l'histoire de l'art, dont Lanskoy. Et il y avait beaucoup d'œuvres de Lanskoy, par exemple. Mais néanmoins, la collection Dutilleul Mazurel, parce que d'ailleurs Lanskoy était plutôt du côté de Mazurel, était une collection qui avait un goût très particulier. D'une certaine manière, le musée, l'enveloppe architecturale du musée de Simounet était venue... juste enrober finalement cette espèce d'esprit de collectionneur merveilleux. Et la racine avait encore renforcé finalement cet esprit d'un musée de collectionneur. Et je trouvais, ce qui est un peu bizarre puisque je devrais défendre le travail d'acquisition des conservateurs de musées, mais je trouvais que la collection d'art contemporain à côté était animée de très beaux moments, mais tout ça ne formait pas une collection. Et donc j'en suis venue à la conclusion assez paradoxale que finalement les musées ne sont pas les meilleurs endroits pour collectionner et les conservateurs ne sont pas les meilleurs agents de la collection, de l'acquisition, pour la bonne et simple raison, parce que j'ai réfléchi à ça, je me suis dit pourquoi est-ce qu'on acquiert mal ? Eh bien parce qu'on est un petit peu écrasé par la responsabilité du pour toujours et de la responsabilité du collectif. Et donc, on n'ose pas, comme le collectionneur, dire « je m'en fous, ça j'aime, et puis je vais acheter, je vais acheter 23 Gérard Deschamps, et je m'en fous du reste, etc. » On est tout le temps animé par cette idée « est-ce que ça a un sens ? Est-ce que ça vient rentrer dans les lignes de la collection ? Est-ce que c'est compréhensible ? Est-ce que c'est pédagogique ?» Et toutes ces questions, elles ont beau être tout à fait valables, et de toute façon, j'ai beau dire ce que je dis, je continue à me poser ces questions. C'est pas ça qui fait une collection au final puissante, incroyable et dans laquelle souffle un esprit.
Et alors pour venir plutôt au Musée des Beaux-Arts de Nantes, est-ce que en termes de réflexion justement, tu as cette collection d'art contemporain qui se trouve et qui est très bien mise en valeur dans les nouveaux bâtiments. Est-ce qu'il y a des pièces qui viennent de collections privées en dépôt? Est-ce qu'il y a eu des dons, des donations? Est-ce que l'Association des Amis du Musée, qui est un organe qui est très important dans l'histoire des collections, on l'oublie beaucoup trop, en tant que fournisseur en quelque sorte, comment à Nantes les choses se présentent-elles?
Alors il y a pas mal d'ailleurs acteurs et témoins de cette histoire qui sont dans la salle, puisque c'est une histoire qui est radicalement différente, mais qui est aussi très belle. Il y a eu un choix dès le 19e siècle de consacrer déjà les crédits d'acquisition plutôt à l'art vivant. On n'appelait pas ça de l'art contemporain à l'époque, et ça déjà c'était un choix assez audacieux de la part de la ville. Alors ils n'ont pas toujours acheté ce qu'il aurait fallu acheter, il y a quand même eu des trous d'air dans la collection, mais néanmoins il y a eu ce choix qui fait d'ailleurs que la collection ancienne est une collection de collectionneurs. Enfin ça c'est un autre débat. Mais quand Henri-Claude Cousseau est arrivé à la fin des années 80, début des années 90, ils ont finalement réactivé ce choix et décidé de consacrer des crédits non négligeables, en tout cas une énergie non négligeable à l'accroissement de cette collection d'art contemporain. Et à ce moment-là, alors on peut aussi parler des amis, dont l'association a été créée, je crois, en 1919, puisqu'on va fêter le centenaire. Et cette société d'amis s'était conçue à l'origine comme une société qui allait bousculer justement les mauvaises acquisitions du musée de Nantes et essayer de ramener un peu d'art contemporain. Et elle continue à avoir une action très dynamique sur l'acquisition d'art contemporain. Et ce dont je suis très heureuse, je dis ça parce qu'Alain Provost est là, c'est qu'ils ont accepté depuis cette année qu'il y ait un témoin du musée qui assiste à leur débat, ce qui est gentil de leur part. Donc ça ne veut pas dire qu'on leur ôte de leur liberté, mais ils acceptent qu'on participe à leur dialogue sur les acquisitions.
Et à quelle hauteur et à quelle fréquentation cela se fait-il? Ces dons de l'association, des amis.
Alors en fait, il y a des acquisitions, je pense, chaque année. Par contre, les dons se font par bouffée. Moi, je ne connais pas exactement l'histoire de ces dons, mais il y a eu plutôt par bouffée des dons et où le musée aussi était en droit de refuser certaines acquisitions des amis du musée. Mais en tout cas, ça a joué un rôle important. Ensuite, il y a les artistes, puisque Nantes est une ville où il y a une communauté artistique très dynamique, une école des beaux-arts, etc. Et par conséquent, il y a eu souvent des politiques soit d'acquisition, soit de dons qui sont liées à des expositions que le musée a organisées. Et les artistes ont aussi historiquement été très généreux. Ensuite, il y avait toutes sortes de stratégies. Henri-Claude Cousseau connaissait très bien tous les réseaux de l'art contemporain. C'était une des chances. Et donc le CNAP et le FRAC aussi sont des dépositaires institutionnels. Par contre, sur les collections privées, ça, à ma connaissance, j'ai cherché justement pour notre colloque des dépôts de collections privées.
Il n'y en a pas, oui,
ou alors je ne les connais pas.
Et est-ce que, par exemple, la directrice du musée que tu es a en tête d'enquêter dans les collections privées et peut-être essayer, en quelque sorte, d'attirer certaines d'elles, soit pour faire un dépôt sur 5 ans, 10 ans, soit en espérant que...
Alors, en fait, j'ai eu...
J'ai vu un clin d'œil, là, qui s'est fait entre deux personnes.
Bon, d'abord, on est en discussion avec Jean-Jacques Lebel. Ça a été publié, qui a créé, justement, un fonds de dotation inaliénable sur sa collection qui est constituée non seulement par ce que lui a acheté ou échangé, puisqu'il est artiste. Il y a beaucoup d'œuvres qu'il a échangées avec d'autres artistes, mais aussi, évidemment, la collection de son père, Robert Lebel. Et donc, il y a quelque chose comme 900 numéros dans cette collection, sans compter les archives, et on est en discussion avec lui, mais c'est un peu curieux cette idée du fonds de dotation inaliénable, parce que du coup, il peut le mettre en dépôt dans un musée, enfin c'est ça qui l'arrange d'ailleurs, et puis s'il n'est pas content, au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, le mettre ailleurs. Ça c'est un petit peu un problème, parce que accueillir une collection en dépôt, inaliénable ou pas d'ailleurs, c'est investir sur cette collection. C'est la restaurer, c'est l'inventorier, c'est la photographier, c'est la valoriser. Et j'ai eu une très mauvaise expérience au LAM à ce sujet, qui est tout simplement un collectionneur au bout de 10 ans, on avait fait plein de catalogues, plein de photos, plein d'inventaires, plein de publications, et puis il a en retiré sa collection, et puis il a commencé à la vendre à partir du moment où l'art brut a commencé à valoir de l'argent.
Ah oui, vous aviez fait tout le travail en amont de la publicité, quoi.
Et donc, en fait, je suis un petit peu échaudée par ça, parce qu'autrefois, en effet, le dépôt était la porte d'entrée à la donation. Et je suis plus sûre que ce soit tellement le cas, ou en tout D'accord. cas j'ai eu cette mauvaise expérience qui m'a mise légèrement en défiance par rapport à cette il peut y avoir des collectionneurs. Donc aller chercher un dépôt où il y a toujours le risque que les deux se fâchent, et au bout d'une certaine durée la collection s'en irait malgré tout l'investissement et l'argent public dépensé pour la valoriser, la protéger, la conserver, l'assurer, j'en passe et des meilleurs. Je ne suis pas trop sûre.
D'accord. Henri Griffon, donc il y a une double casquette. Il y a le collectionneur et il y a le président du FRAC. Alors, je m'adresse d'abord au collectionneur. Est-ce que dans votre histoire de collectionneur, vous avez déjà mis en dépôt dans une institution publique des œuvres ? Et peut-être des exemples concrets.
Oui, moi je mets en dépôt régulièrement. D'abord parce que Dominique l'a rappelé hier, je fais partie des gens qui doivent beaucoup à l'institution, beaucoup à l'abbaye Sainte-Croix, à ce musée des Sables-d'Olonne que j'ai vu naître et qui m'a vu naître presque. Et donc, j'accompagne ce musée depuis ma plus tendre enfance, pratiquement. Donc, je mets en dépôt, depuis 20-25 ans, des pièces. Ils en font ce qu'ils veulent. Je m'occupe absolument de rien. Et je les laisse et je ne m'en occupe plus. Quoi. Et je vais les voir de temps en temps.
Alors, attendez,
et je suis dans ce musée pratiquement à chaque fois que je vais au Sable d'Olonne. Je ne vais pas au Sable d'Olonne pour la mer, j'y vais pour le musée de l'abbaye Sainte-Croix.
Ah oui, pour aller voir votre collection.
Non, vraiment non, c'est pas du tout. Parce que j'aime ce musée, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai suivi tous les conservateurs. Je devais avoir 5 ans à la première exposition, et cette exposition, il se trouve que c'est un artiste que peu de gens connaissent, mais je vais le citer parce que je fais la promo et c'est mon métier de transmettre. C'est une expo d'un artiste qui s'appelle Jules Lefranc, qui est classé dans les naïfs, mais qui est plus proche des précisionnistes américains. Et j'ai toujours eu une passion pour Jules Lefranc. Et maintenant, avec presque 50 ans de recul, j'ai toujours la même passion,
et alors, intacte. Vous êtes en train donc de nous dire que les œuvres que vous avez mises en dépôt au Sable, c'est uniquement Jules Lefranc ?
Ah non, non.
Non,
non, non, je mets en fonction... Je discute. Alors, j'ai eu cette chance d'être proche d'Henri-Claude Cousseau, de Semain, bien sûr, d'Ottinger, j'ai continué, mais un petit peu moins, très proche de Decron, parce qu'on était chez les curés ensemble de la 6e à la terminale, donc ça crée des liens. Donc j'ai accompagné Benoît Decron, il est parti au musée Soulages après, donc il regardait chez moi et il me disait ça je prendrais bien, donc je les laisse.
Alors ça se faisait comme ça, Benoît mangeait à la maison et il disait tiens, il y a un Soulages qui m'intéresse.
Non, j'ai fait comme ça parce que ça avait du sens, et une fois encore, c'est des artistes qui ont été exposés. Bon, j'ai un exemple très simple, Decron a présenté Gilles Barbier au Sable d'Olonne très tôt, je ne me souviens plus, je crois que c'était 96 ou 98, ça va être 98, et pour les hasards de l'histoire ont fait qu'il n'a pas pu acheter de Gilles Barbier. Donc moi, quand j'ai acheté un Gilles Barbier, je l'ai déposé à l'abbaye Sainte-Croix. Ben, ça avait du sens qu'il faisait un Gilles Barbier.
J'ai envie de vous dire que vous avez manqué de générosité, vous auriez pu donner votre Gilles Barbier.
Je donnerai peut-être un jour, mais pour le moment, c'est une décision que je prendrai avec ma femme, mes filles, et puis j'ai le temps, je ne suis pas prêt encore à...
Ah non, mais je vous ai pas. Non, mais on peut donner de son vivant, d'après ce que je crois savoir juridiquement.
Ah oui, absolument, mais je veux faire des choses utiles. Donc, de même que je n'ai pas vendu, je n'ai pas encore donné.
Ah,
sauf à mes copains.
C'est une bonne
formule. Ça m'arrive de
à vos copains de temps en temps. Devenez tous copains de Griffon.
Ça m'arrive. Donc voilà, je dépose au FRAC des Pays de la Loire aussi. Bien évidemment, parce que ça me permet de voir les œuvres, d'aller dans les réserves, de trouver les miennes, c'est très agréable.
Mais alors dites-moi là, Henri Griffon, il n'y a pas un problème quand même de lobbying entre une casquette de collectionneur, un président
non,
de FRAC
je moi, sais que, pas. Non,
comment
mais,
vous en sortez là, très
moi,
clairement.
Je vais être tout à fait clair. Hein, moi, j'ai accepté d'être au FRAC des Pays de la Loire parce que j'aimais l'art, sinon j'y serais jamais allé. Et j'ai accepté d'y être avec une réserve forte, c'était d'être au comité technique, parce que les conseils d'administration, j'aime bien, mais c'est pas, j'en ai assez comme ça, donc j'y allais pas, mais j'y allais pour défendre les choix au conseil d'administration. Et j'ai dit, à l'époque c'était ADI, ils y tenaient pas trop, les directeurs sont pas très favorables à ce que les présidents soient au comité technique, pour des raisons que je comprends. C'est pour ça que je suis un peu un membre fantôme. Laurence ne me met rarement sur les listes de membres du comité technique, mais j'assiste à tous les comités techniques, et il n'y a pas de comité technique sans moi.
Et vous faites des propositions ?
Pratiquement pas. Je laisse la liberté aux membres, c'est très important. Moi, mes seuls dividendes du FRAC, c'est les informations que je récolte, c'est ma culture personnelle, c'est tout.
Quand vous dites pratiquement pas, qu'est-ce qui fait que... je vais faire cette proposition.
Mais parce que j'ai des engagements qui sont connus de tous. Alors là, j'ai fait pratiquement toutes les commissions du FNAC. J'ai fait photo, j'ai fait design, j'ai fait art plastique. J'ai fait celle du musée d'art moderne. Donc, quand on me fait venir, c'est parce qu'on sait que j'ai quelques engagements. Donc, je défends les engagements. Donc, ce que j'ai fait acheter en un peu moins de 20 ans, j'ai dû faire acheter à tout casser 5 à 6 pièces, un point c'est tout. Je suis très engagé auprès d'un artiste que beaucoup connaissent, s'appelle Télémaque. Donc, j'ai fait acheter des Télémaques partout où je suis passé. Et quand je suis arrivé au FNAC, à l'époque, c'était Martin Bétheneau. J'ai eu d'abord Guillaume Sellem. J'ai eu Guillaume Sellem, Martin Bétheneau.
Comme délégué aux arts plastiques.
Et puis Blisten, oui. Et à chaque fois, je leur ai dit, je ne vais pas aller chercher la modernité, alors que les conseillers aux arts plastiques du ministère de la Culture sont plutôt brillants, courent toute la semaine dans les galeries, donc ils font déjà très bien le boulot, je ne vais pas faire le même. Mmh. Donc j'y allais pour présenter une certaine originalité, sinon je restais chez moi. Donc à chaque fois, j'y allais pour présenter des choses que les autres ne présentaient pas, ce qui m'a valu des fous rires extraordinaires. Ergot le raconte d'ailleurs dans le catalogue de Bernard Buffet, que Dominique connaît bien, parce que j'ai essayé de présenter un Bernard Buffet en commission du FNAC, je vous promets qu'il fallait être courageux, et je l'ai fait. Et ça n'a pas marché, je vous le dis tout de suite, mais j'ai quand même voulu le faire. Et ça a quand même éveillé un peu un type comme Fabrice Ergot, qui, 15 ans après, dit « si je fais Bernard Buffet, c'est parce qu'il y a Kippenberger et aussi parce qu'il y a un tout petit peu Henri Griffon qui a essayé de présenter Bernard Buffet en commission du FNAC ». Donc, moi, mes choix, ils sont connus. Donc, quand je suis allé au FRAC, un jour, on avait un comité technique merveilleux, avec des gens formidables avec lesquels j'avais vraiment plaisir. Moi, j'attache beaucoup d'importance à la convivialité dans l'art. Tout ce que je fais, c'est pour me distraire et rigoler un peu. Lui, il le sait bien, Philippe. Moi, si j'y vais pour les ennuis, je reste chez moi, c'est pas la peine. Donc, j'y vais avec cet esprit un peu de gaieté et de convivialité. J'ai toujours eu du plaisir à travailler avec l'équipe du comité technique. Donc, Christian Bernard m'a dit, tu connais bien Télémaque, tu nous fais présenter à Télémaque. J'avais déjà prévu le coup depuis longtemps, mais j'y allais doucement. Et ils m'ont fait présenter autre chose que ce que je voulais, mais j'ai quand même présenté un beau Télémaque au FNAC, et j'en ai fait au FRAC, j'en ai fait acheter au FNAC, j'en ai fait acheter partout où je suis passé. Et
ça s'appelle de la fidélité, mais c'est plus
mais voilà, moi, si j'ai à me caractériser, c'est un peu ça. Moi, je suis quand même un type assez engagé. Je suis très fidèle, il faut dire, même parfois des mauvais artistes, mais je m'en fous. Et je transmets les choses. Mon plaisir, c'est de transmettre. C'est pour ça que mes copains sont les bienvenus et j'ai fait en sorte qu'ils achètent des télémacs. Sinon, ils ne restent pas mes copains.
Fidèle à des mauvais artistes. Fidèle à des mauvais artistes que vous devez surtout, juger bon.
Non. Ce que je veux dire, c'est qu'on évolue avec le temps et qu'on ne peut pas aimer les choses. Moi, je vis dans l'art depuis que je suis né. Donc, on ne peut pas aimer les mêmes choses. Je n'ai jamais acheté de Bernard Buffet, bien évidemment. J'ai une histoire familiale avec Bernard Buffet. Donc ça s'arrête là. D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que chaque pierre à l'édifice me permet d'évoluer et de passer d'étape après étape, comme une œuvre se construit, d'ailleurs, parce que je ne connais pas d'artiste qui parle de la page blanche. Tous les artistes montent les marches à partir de l'histoire de l'art et d'autres artistes.
Est-ce que vous êtes dans d'autres commissions d'achat ?
En ce moment, non, j'en ai plus.
Et en ce moment, non. D'accord, pas pour l'instant. Très bien.
Sauf au FRAC, je suis toujours au FRAC.
Alors, je vais me permettre de vous poser une question qui, je ne pense pas, est indélicate. C'est parce que c'était hier Emmanuel Régent qui a fait la remarque à un moment. On a entendu parler de collectionneurs, mais on ne sait pas ce qu'ils font dans la vie civile. Henri Griffon, quel est votre métier sur votre carte d'identité, s'il vous plaît?
Historiquement, je suis industriel vendéen, mais j'y suis par le hasard des choses, parce que j'ai perdu mon père très jeune, parce que moi, à l'origine, je suis juriste, j'ai une formation de juriste, j'allais être avocat quand mon père est mort. Donc, je suis revenu dans des entreprises familiales. Certaines sont un peu compliquées. On était à la fois, surtout dans l'ameublement et dans les salons, puisque mon père avait créé le salon du meuble, et un peu dans la plaisance, parce que ma grand-mère était Jeannot, donc on faisait des bateaux et des meubles pour bateaux. Donc, j'ai géré un peu tout ça. Et j'ai eu la chance d'avoir un métier qui me permettait de vivre pas trop mal et d'avoir une passion qui était le seul motif d'avancer pour moi dans la vie.
Merci de votre réponse. Alors, on va demander à Evelyne et à Jacques de Rey, pareillement, de répondre à cette question d'abord de leur activité dans la vie civile, puisqu'ils sont là pour être représentants de ces collectionneurs d'art contemporain. Mais dans la vie civile, Evelyne, Jacques.
Moi, je viens plutôt du milieu de la formation des adultes, Université Paris-Dauphine, où j'étais responsable d'un master sur les problématiques d'ingénierie de formation dans les gros systèmes. Je suis maintenant vice-présidente d'une ONG de l'UNESCO, le Comité mondial pour les apprentissages tout au long de la vie, où je suis engagée sur du militantisme et du lobbying pour l'éducation des femmes et des filles dans le monde.
Voilà, qui est d'une précision parfaite. Jacques.
Alors, moi, pas du tout.
Pas du tout quoi ?
Pas du tout dans le domaine d'Evelyne, comme quoi il y a tout.
C'est vraiment un couple merveilleux.
Alors moi j'ai une carrière de chef d'entreprise pour des grands groupes, donc j'ai été patron d'un certain nombre de filiales, en particulier de groupes américains, et donc j'ai beaucoup voyagé, et ça expliquera sûrement tout à l'heure quelques bonnes raisons de Art Collector. Je suis aussi aujourd'hui très actif dans un réseau qui s'appelle le Réseau Entreprendre et qui aide les jeunes entrepreneurs, et aussi dans un fonds d'investissement qui rachète des entreprises.
Voilà, c'est ce qui m'intéressait aussi de dire que l'engagement dans l'art contemporain, il n'interdit pas d'autres types d'autres formes d'engagement. Alors, Evelyne et Jacques, vous avez cette passion pour l'art contemporain. Elle remonte à quand et qui est le premier, s'il y en a un, ou si c'est vraiment une passion partagée qui est venue, advenue en même temps, ensemble, je ne sais pas.
Ça, j'en suis pas sûre, bien que contrôlera. Mais en fait, je me retrouvais assez, moi, dans les étapes accessibilité, apprentissage et acquisition qui évoluent vers l'engagement que vous avez présenté hier. Et en fait, moi, mon premier achat est en fait une commande.
C'est un engagement.
Oui, c'est un engagement de quelque chose qui reste un des trois thèmes de ma collection. C'est des enfants de dos qui sont en train de regarder des choses dont on ne sait pas si elles sont magnifiques, terrifiantes, tristes. Et donc, je vois ça chez une voisine, qui à Arras, où on habitait à l'époque, et qui présente ça dans sa fenêtre. Et je sonne, je rentre, et je passe une commande. Et en fait, c'est un peu comme ça que c'est... Et puis après, bon, ben, c'est bien sûr... ça date de 35 ans, ça. Mm-hmm. La commande, c'était mon fils qui regardait de dos après des choses. Et du coup, c'est un premier pas. Après, c'est un intérêt des lectures, des revues, un groupe, des rencontres dans un groupe qui s'appelait Art Process à l'époque où on a voyagé. Après, des salons, des foires, Globetrotter, je disais ce matin. C'est-à-dire qu'en fait, ça, c'est un peu déroulé.
D'accord. Jacques ?
Alors, moi, c'est plutôt... peut-être les premiers achats, c'est des dessins d'architecture.
Oui, ça corrobore.
Là encore, ça va expliquer
que je disais,
sûrement
la nature de la collection.
La source de ma collection.
D'accord.
Avant ou après ?
Bon, je pense que c'est un peu au même moment. C'est un peu au même moment. Mais à ce moment-là, on n'est pas du tout collectionneur. On est, on est curieux d'un certain...
Et alors, Jacques, à quel moment vous êtes collectionneur, puisque tu sors cette formule ? Quel moment on devient collectionneur ?
Quelqu'un m'a posé la question, je ne sais plus, dans nos temps morts. Je pense que l'idée de se dire qu'on commence à être collectionneur, c'est quand l'assemblage de pièces qu'on a pu acquérir revêt un sens un peu global.
D'accord.
C'est-à-dire qu'elle commence à avoir une consistance qu'on peut expliquer.
Et qui joue aussi par le nombre, peut-être.
Oui, alors on m'a demandé c'était quand et combien il y avait de pièces. Je ne saurais pas répondre, mais il y avait un certain nombre de pièces.
D'accord.
Evelyne, si, moi je pense qu'on était amateurs, on vivait notre vie avec des œuvres voilà, qu'on achète et qu'on expose. Et c'est quand on a dépassé la phase d'acquisition pour nous qu'on a voulu s'engager. Et que donc là, quand on s'est engagé plus dans le processus art collector, c'était qu'il ben, a bien fallu accepter l'étiquette de collectionneur.
Bon. Oui.
Vous collectionnez quoi? Alors, il a fallu un peu caractériser, structurer, bon, trois thèmes de collection. Il a fallu commencer à avoir un discours un peu plus, oui, structuré, organisé, pour pouvoir parler, puisque notre objectif, c'était de faire la promotion de jeunes artistes français.
Alors, justement...
Et à ce moment-là, on est devenus des collectionneurs.
Bah, vous l'affichez, en quelque sorte, aussi, dans l'intitulé de la structure que vous avez créée, Art Collector. Qu'est-ce qu'Art Collector, en quelques mots?
Alors, ce n'est pas une structure, hein.
Oui, enfin, moi, j'appelais ça une structure dès que c'est un peu organisé.
En fait, c'est nous deux, quoi, voilà. Et c'est de l'argent privé, on se met d'accord tous les deux. Et on a choisi de soutenir des artistes de moins de 40 ans qui ont déjà des collectionneurs, puisque ça s'appelle Art Collector, les collectionneurs invitent un artiste. C'était l'idée que, au-delà de l'acte d'achat, que font les collectionneurs pour s'engager au soutien et en en plus de visibilité de jeunes artistes qui sont déjà collectionnés, donc qui ont déjà des galeries, mais qui cependant ont besoin d'un petit booster. Donc c'était ça l'idée qui a présidé à notre Art Collector, avec peut-être le fait que...
Et comment ça fonctionne?
Alors comment ça fonctionne? Il y a un comité de sélection depuis le début. Alors comme nous avons, on présente deux artistes par an qui sont lauréats. Il y a donc un artiste de ma collection, un artiste de la collection de Jacques, on se bagarre tout l'un contre l'autre, hein. Il y en a un des deux qui l'emporte. Et après, le comité de sélection propose d'autres artistes qui ne sont pas dans notre collection, parce qu'on s'est dit qu'il ne fallait pas qu'on s'enferme, nous, d'abord à collectionner uniquement des artistes pour Art Collector, parce que bien sûr, on n'a pas que des artistes jeunes, français, émergents, et que ce pouvait être intéressant justement de partager avec d'autres collectionneurs qui du coup s'engageraient comme nous en prêtant des œuvres. Donc voilà, ça, c'est un comité de sélection, 10 jours d'exposition dans un lieu qu'on privatise, hein, donc enfin, on nous prend pour une galerie, pas du tout, on privatise un lieu deux fois par an, avec un grand vernissage qui rassemble un peu tous les... C'est un no man's land, donc tout le monde peut venir. Des catalogues, 600 catalogues, hein, qui sont donnés à l'artiste, donnés à ceux qui viennent nous voir et qui sont aussi, à la demande des artistes, envoyés au musée, au FRAC, justement pour poursuivre un peu la promotion. Et on a d'emblée pensé à des attachés de presse, à une agence d'attachés de presse, puisque l'idée, c'était en plus de visibilité, qu'il fallait donc des articles.
Mais l'objectif, je dirais, final... Quel est-il exactement? Quelle est l'intention?
Alors, l'intention, c'est de faire jouer les collectionneurs. C'est parti de là, c'est parti de mon observation dans les voyages, dans les nombreux voyages que j'ai faits, où j'ai vu des collectionneurs dans d'autres pays soutenir leur scène. Donc, ça a été un choix de soutenir la scène française et de soutenir les artistes français, d'y associer les collectionneurs. On les associe dès le début, puisque quand un artiste est lauréat d'Art Collector, il va avoir cette exposition, il va avoir ce catalogue.
Qui est édité,
dans lequel nous allons demander aux collectionneurs qui vont être associés à l'exposition et donc prêter des œuvres de l'artiste dans l'exposition.
Pour qu'il n'y ait pas d'erreur, il faut simplement en sortir un pour bien montrer que ce n'est pas aussi épais que ça, mais
non,
que...
Ça,
non, non, mais je voudrais qu'il n'y ait pas d'erreur. Voilà, c'est le coffret.
Et voilà. Et donc, dans chaque catalogue, les collectionneurs écrivent. Et le but que tu connais, Philippe, évidemment, sont des artistes français pour des raisons où je pense que les collectionneurs français doivent s'investir, comme s'investissent les collectionneurs allemands pour la scène allemande, ou suisse,
ou belge.
Ou belge.
Irlande.
Et donc, l'idée. De notre accompagnement, parce que évidemment, il y a chaque année des artistes qui rentrent dans ce programme de mécénat, qu'on continue à suivre et accompagner, puisque au bout du 10e, nous les avons emmenés à Bruxelles. Et donc l'idée est évidemment d'aller dans cette logique que les artistes français doivent être promus ou soutenus, mais peuvent aussi être connus et soutenus ailleurs.
Alors, vous les avez emmenés à Bruxelles, pour le dire avec beaucoup de franchise, je suis d'autant plus concerné que vous m'avez demandé d'être le commissaire de l'opération, pour que ce ne soit pas mal entendu ou caché, et on les y a emmenés, disons-le au pluriel, on les y a emmenés dans un espace qui est un espace privé, une galerie, la galerie Valérie Bach, patinoire royale. L'idée, c'est plus d'aller vers le privé ou d'essayer quand même de trouver, à les entraîner vers l'institution.
Alors, je crois qu'il faut, c'est bien de faire le lien, parce que notre programme, il s'inscrit dans le parcours un peu rêvé de chaque artiste. Chaque artiste a ce parcours qu'il veut essayer de faire le mieux possible, et évidemment, que ce soit les FRAC ou que ce soit les musées, il y a un moment où ça fait partie d'une étape. Nous, on se situe dans ce parcours en se disant que ce qu'on va faire de façon professionnelle, que ce soit les expositions qu'on monte, que ce soit le catalogue qu'on édite, va les accompagner, va les aider dans ce parcours qui est de continuer à travailler, à montrer leur travail au monde privé, mais aussi, évidemment, d'intéresser les institutions. Donc, pour nous, et je ferai une parenthèse, puisque ce projet, on l'a aussi présenté à l'époque au ministère de la Culture, qui nous a dit, oui, c'était très intéressant, votre initiative, on va voir, faites donc. Donc, nous avons fait, et on a voulu prouver que c'était bien fait, et au bout de 3 ans, nous avons obtenu le parrainage du ministère de la Culture. Donc, pour nous, voilà, si pour répondre directement à ta question, évidemment que tout ce qu'on fait pour les artistes, c'est de les aider dans ce parcours où l'institution, évidemment, compte.
J'ai juste quand même... Evelyne ? Oui, j'ai quand même... C'est vrai que... OK. Mais il y a quand même quelque chose qui est au début à jouer, parce que quand on a commencé, quand même, il nous a été dit, bah, écoutez, si vous avez de l'argent, je vais le dire comme ça.
Oui, hein, oui, bah, bien sûr.
Les avoltures, puisque vous avez de l'argent à dépenser, bah, écoutez, donnez-le aux institutions qui sauront choisir. Or, en fait, nous, le choix que nous faisons, et je le dis quelquefois de façon un peu comme ça, cavalière, c'est un choix de citoyen. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je n'ai pas fait de formation d'histoire de l'art. C'est au goût et à l'intuition qui était, et comme ça, au coup de cœur. Et du coup, j'ai envie aussi que ce choix-là permette de soutenir, d'une part, les artistes, d'accroître leur visibilité, que par notre intermédiaire, ce soit mutualisé, c'est-à-dire qu'on fait des partages aussi de réseaux, de gens qui peut-être ne viendraient pas, hein. Et puis tout un travail, mais alors ça qui renvoie à mon autre activité, d'accompagnement aussi. C'est-à-dire que, en fait, quand ce sont certains artistes qui sont un peu émergents, très sortant de l'école, moi j'ai dû me former, fiche de prêt, fiche de dépôt, les contrats, enfin toutes ces choses un peu juridiques qu'ils n'apprennent pas, mais vers lesquelles, enfin ils reviennent vers nous pour dire mais comment je récupère mes œuvres, une espèce de difficulté ou de manque quant à leur rapport avec le marché, les galeries, voilà.
Et si je t'entends bien, donc, vous êtes volontiers prêteur de vos œuvres auprès de l'institution lorsque la chose est demandée.
Ah oui, ça bien sûr. Ça bien sûr, on le fait avec grand plaisir. D'ailleurs, tiens, il faudrait peut-être quand même qu'il bouge un peu ce truc-là.
Oui, il a bougé tout à l'heure, c'est pas grave.
Il est figé sur nous, c'est très
bien.
Oui,
je suis désolé. Ça, c'est les lauréats de Art Collector. Mais merci Dominique, hein, j'ai fait exprès de ne pas me mettre au milieu parce que je trouvais que c'était mieux de faire comme ça.
En fait, on prête surtout à la demande d'institutions publiques, les centres d'art comme EMAP, le FRAC de Marseille, le FRAC de Toulouse, le musée des Beaux-Arts de Chambéry.
Désolé, Dominique.
Mais aussi pour des expositions privées comme Maison Rouge, Château Rivaux, si vous connaissez, mais aussi à la demande d'artistes directement qui vont passer par notre intermédiaire, comme là récemment le centre culturel, le Quinconce au Mans, ou pour des expositions bien sûr dans le cadre d'Art Collector.
Alors,
Là, c'est Jérôme Zonder. Donc, voilà, je ne sais pas si c'est visible.
Est-ce que c'est important pour vous, Jacques et Evelyne, lorsque vous prêtez une œuvre, de considérer aussi que c'est un plus, je n'ai pas dit une plus-value, c'est très différent, c'est un plus pour le CV de votre œuvre, de l'œuvre que vous possédez.
Alors là, écoute, je ne raisonne pas du tout comme ça. C'est un plus pour l'artiste. Parce que très souvent, certains des artistes, ils aiment recomposer.
C'est un plus pour l'artiste, parce qu'à ce moment-là, il y a marqué collection de Ray.
Ah oui, alors ça, la collection de Ray, c'est parce que c'est Evelyne et Jacques de Ray.
Non, mais c'est notifié dans le cartel.
C'est différent.
Non, non, Evelyne, c'est notifié dans le cartel ou vous laissez collection particulière ? Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Quelle était votre posture de collectionneur par rapport à cela ? Non, mais c'est très important. Si on se rappelle Passion privée, 1996, première exposition importante de ces histoires de collection privée, il y avait des prêteurs qui n'ont pas voulu dévoiler leur nom. Dominique connaît ça, elle était au musée d'art moderne de la ville de Paris à l'époque. Oui, alors que d'autres ont accepté. C'est vrai qu'on en parlait hier, je ne sais plus avec qui, cette exposition avait d'ailleurs un peu perturbé pas mal de collections d'art contemporain, parce que dans les surlendemains de cette exposition, il y en a certains nombres qui ont eu des contrôles fiscaux.
Mais voilà, c'est la deuxième chose qui nous a été dite. Si vous
n'étiez pas encore dans l'habitude d'avoir des collections, je puis dire.
Que là, les deux remarques qu'on a eues, c'était donnez-nous cet argent parce qu'on saura quoi en faire. Et la deuxième, c'était vous allez avoir un contrôle fiscal. Et nous, compte tenu de nos origines professionnelles, on s'est dit mais si on commence à raisonner comme si on avait raisonné comme ça dans notre vie, il y a des choses.
On ne fait plus rien.
Enfin, bref, on aurait eu un problème.
Donc, le prêt, Philippe, pour nous, il est plus important puisque vous avez bien compris que notre choix n'a pas été de promouvoir nos collections. Parce qu'on aurait pu faire ce choix-là.
Oui, oui.
Au lieu de faire Art Collector pour soutenir des artistes, on aurait pu faire Art Collector pour faire tourner nos deux collections. Donc c'est vraiment les artistes qui sont au cœur de ça. On a à cœur de faire en sorte que les collectionneurs qui s'engagent dans chaque événement s'engagent vraiment. C'est-à-dire qu'ils vont prêter une œuvre, qu'ils vont écrire un texte ou se faire interviewer dans le catalogue. De la même manière, quand on prête une œuvre, je crois que c'est vraiment au service des artistes.
Alors, pour rester encore juste une petite séquence de temps avec tous les deux, je voudrais juste, parce qu'on l'a vu défiler, que vous nous disiez quel est le type d'engagement que vous avez dans ce pays du Lot qui vous est cher et où vous avez un pied. Et où vous avez décidé aussi, même si c'est généralement des résidences secondaires où on se tourne les pouces sur la chaise longue, non pas du tout, vous avez décidé aussi d'être actif dans le pays de Saint-Céré.
Alors Saint-Céré, c'est dans le beau pays du Lot, c'est plutôt dans le nord du département, et en fait, là aussi, on s'est dit que qu'il n'est pas notre pays d'origine, puisqu'on est Saintois, ouais. On n'est pas Lotois. Qu'on a cette résidence depuis longtemps, qu'en étant amateur d'art et collectionneur, on pouvait aussi faire quelque chose dans cette région. Il se trouve qu'il y a un festival d'art lyrique à Saint-Céré, très important, et qu'on s'est dit qu'avec ce programme d'art lyrique, ça serait bien d'y rajouter l'art contemporain. Donc voilà, on a créé une association là-bas qui s'appelle Art Contemporain en Pays de Saint-Céré et on invite des artistes qui sont plutôt des artistes avec un lien sur le son, sur la musique, sur le bruit, de manière à pouvoir proposer un programme qui s'inscrit dans le cadre du festival.
Du festival l'été. Voilà.
Et on travaille avec des étudiants, parce qu'il y a toujours cette dimension éducative aussi, avec des étudiants là-bas pour constituer des dossiers sur les artistes qui s'occupent de bruit, son, musique, parce que j'ai les trois trucs, avérés, émergents, et constituer des dossiers qui permettent aussi, qui leur permettent à eux d'entrer dans cet aspect-là des arts plastiques. Voilà.
Alors, Dominique Gagneux, donc vous êtes conservatrice,
hein, oui.
Vous travaillez au musée d'art moderne de la ville de Paris antérieurement, si j'ai bien entendu les choses,
ça.
Et vous voilà donc maintenant en charge de mettre en place le futur musée de Fontevraud. Alors ce qui fait la particularité, si j'ai bien compris, de ce musée qu'il va venir, c'est qu'il procède d'un don. Alors, je pense que la première chose peut-être que j'ai envie de vous demander, c'est de nous préciser le contexte, je dirais, juridique dans lequel un don peut s'opérer de cette manière. D'autant plus que vous pouvez faire défiler les images à votre guise comme vous voulez. C'est une collection qui, elle, n'est pas contemporaine d'aujourd'hui, mais comme je ne cesserai de le dire jusqu'à ce que je ne puisse plus, l'art est toujours contemporain de son époque, donc il est toujours contemporain finalement, et donc de Corot à Germaine Richier, je crois.
Les donateurs sont d'aujourd'hui, puisqu'en fait
les donateurs sont contemporains.
Voilà, ils sont contemporains. C'est vrai que la collection, la chronologie de la collection, les limites chronologiques vont de Goudéa, c'est-à-dire l'art mésopotamien, jusqu'à un très bel ensemble de Germaine Richier, c'est-à-dire le grand échiquier qui date de 1959, ce qui en termes de périodisation nous met juste à la limite entre l'art moderne et l'art contemporain. Justement, c'est une collection d'art moderne. C'est une donation qui effectivement est composée de 523 œuvres à l'État. Il y a donc une proposition de donation de ce couple de collectionneurs. Je reviendrai sur la personnalité de ces collectionneurs. Qui donne donc 523 œuvres à l'État, donc qui sont sélectionnées, qui ont été sélectionnées par divers experts, étant donné évidemment la diversité de la collection, son éclectisme, on reviendra aussi sur cette notion. Et il y a même la proposition de faire une donation complémentaire à la région cette fois-ci de 600 œuvres, et il faut là aussi opérer une sélection. Alors dans justement le rapport entre la collectivité publique et le collectionneur privé, il y a cette possibilité de choix qui est assez intéressante, c'est-à-dire qu'un donateur propose et évidemment l'État, la collectivité publique peut refuser. Donc ça, c'est peut-être quelque chose sur laquelle on pourra revenir.
Est-ce que je peux vous couper juste ? Est-ce qu'on peut connaître le nom de ces donateurs généreux ?
Bien sûr, ils s'appellent
Martine et Léon. Mais je n'ai pas l'écran sous les yeux, comme je ne l'ai pas dans la tête. Voilà. Qui sont-ils ?
Alors, Léon Kligman est un industriel du textile. Ça serait d'ailleurs assez intéressant de faire une relation entre les grands collectionneurs et les industriels du textile. Je pense justement à Mazurel et du Tilleul. Alors, Martine et Léon Kligman, alors c'est intéressant parce qu'on a parlé beaucoup là des collectionneurs qui avaient tout d'un coup envie de faire une collection. C'est-à-dire comme si c'était, pour eux, en tout cas, tous ceux qu'on a rencontrés, c'était des choix individuels. Peut-être un petit peu ex nihilo. On n'a pas parlé des dynasties en fait de collectionneurs. Et Martine et Léon Kligman proviennent justement de ces dynasties, on va dire, de collectionneurs, un peu comme on l'a dans la relation du Tilleul-Mazurel, puisqu'en fait le père de Martine Kligman n'est autre que Pierre Lévy, le grand donateur du musée de Troyes.
Ah bah tout s'explique. C'est bien cette filiation, c'est superbe.
Alors, non seulement c'est bien, mais en plus c'est essentiel dans la motivation justement à la fois de la constitution de sa collection et son contenu, c'est ça, et en même temps dans cette volonté de donner aussi à l'État, puisqu'au fond Léon Kligman marche sur les traces de son beau-père Pierre Lévy.
Alors j'ai une question, pourquoi à Fontrevaux? Et parce que la donation Pierre Lévy, c'est à Troyes, si j'ai bonne mémoire. Hein, la fondation Pierre Lévy, la donation, c'est à Troyes. Hein,
absolument.
Dans le monde du textile.
Exactement.
Donc pourquoi à Fontevraud, qui n'est pas, à ma connaissance, une géographie textile, si ?
La région.
Je ne crois pas.
La région.
Bon, pardonnez-moi, je n'ai pas tout dans la tête.
Voilà, exactement. Et en fait, Léon Kligman reconstitue, en fait, vraiment marche sur les traces de son beau-père. Qui a été son mentor, qui a été son guide, qui a été son conseiller dans la constitution de la collection. D'accord. Il y a d'ailleurs une couleur de collection qui est assez proche de celle de Pierre Lévy, bien sûr. Et encore au-delà, je reviendrai là-dessus, sur les filiations, a créé justement ses usines, sa première usine dans la région, voilà, pas très loin de Tours.
D'accord. Okay.
Voilà pourquoi. Et il veut faire exactement la même chose et donner à l'État, comme Pierre Lévy a donné au musée de Troyes.
Alors, ce musée, donc, d'abord, son ouverture, c'est dans quelle perspective ?
Mai 2019,
important bâtiment.
Alors, le bâtiment est donc dans l'enceinte de l'abbaye de Fontevraud. C'est un bâtiment de la fin du XVIIIe siècle qui s'appelle la Fannerie, et donc qui va être entièrement construit, à l'intérieur en tout cas, pour recevoir cette importante collection.
Est-ce que vous avez une connaissance de la fréquentation de l'abbaye de Fontevraud en termes de chiffres annuels ?
C'est environ 200 000 visiteurs par an, ce qui est quand même beaucoup. D'abord parce
que
les tombeaux des Plantagenets Donc, il y a un tourisme important, historique important. Et donc, ça va être un plus. Fait,
la prison de Jean Genet.
Voilà, aussi.
Évidemment.
Bien sûr. Donc, voilà, vous avez une collection qui est, j'ai parlé tout à l'heure d'éclectisme, qui effectivement possède un certain nombre de peintures 19e. Là, je vous fais une présentation un peu École du Louvre. Avec des gens comme voilà, Soutine.
Et comment vous la caractériseriez?
Alors,
dans
on va
sa...
s'arrêter ici.
Voilà.
Au-delà de Pierre Lévy, celui qui avait conseillé beaucoup Pierre Lévy, c'est André Derain. Derain qui est une personnalité qu'on redécouvre là maintenant à longueur d'exposition. Le Musée d'Art moderne de la ville de Paris avait fait une magnifique rétrospective de cet artiste. Et depuis, Derain est quand même très très important. Il avait beaucoup conseillé Pierre Lévy et on voit bien que c'est le Derain d'ailleurs de l'après-guerre hein, qui le conseille évidemment dans cette vision en fait d'une collection ou d'un art qui est celui de la figure. Donc il y a c'est une collection qui est totalement figurative et aussi dans cet attrait pour cet intérêt pour mais il n'y a pas les photos d'intérieur vous avez enlevé d'accord. Dans cet intérêt aussi pour l'art, l'art africain, l'art océanien, il y a de l'art antique, oui, mais là, ça passe
elle
pas.
Elle passe pas.
Donc il y a une collection extrêmement éclectique et on connaît évidemment l'importance de Derain dans la découverte des arts extra-européens. C'est lui qui a été l'initiateur de cet intérêt pour l'art africain qu'il a donné à Matisse et à Picasso.
Alors, est-ce que ce futur musée de Fontevraud, il a une destination d'être dans une temporalité déterminée et définitive, ou est-ce qu'il y a dans le projet de cette nouvelle institution une ouverture potentielle vers des formes d'art contemporain, je dirais, plus vives, plus dynamiques et complètement du 21e, par exemple?
Alors, la première chose que je voudrais dire à propos de la muséographie de ce lieu, ça sera de rendre compte de l'œil du collectionneur. C'est-à-dire, c'est ce fil conducteur, ce fil rouge qui va être extrêmement important. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire un mini-Louvre ou un mini-musée des Beaux-Arts, ce qui serait d'ailleurs totalement absurde, et puis plein de trous. C'est évidemment cette vision très particulière du collectionneur qu'il faut donner. Martine Kliemann est une artiste, elle peint, elle sculpte. Elle a évidemment sauté sur les genoux de Derain quand elle était petite, donc ça l'a énormément marquée. Donc ce sont ces liens qui sont assez invisibles et qui, au fond, constituent une collection qu'il faudra montrer dans la muséographie. Je pense que c'est très important dans la sélection des œuvres aussi, et c'est dommage qu'il n'y ait pas ici les objets extra-européens, dont certains sont vraiment exceptionnels et d'autres beaucoup moins importants, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut juger en fait, ces objets-là. Il faut peut-être mettre l'accent sur un certain formalisme qui est celui qui a présidé à la constitution de la collection.
D'accord.
Et peut-être éviter ce formalisme après, ou en tout cas assumer ce formalisme, et ensuite, par tout l'appareil pédagogique, mettre en valeur ce qui est important et ce qui l'est moins. Le masque que Derain a montré à Matisse et à Picasso n'était pas, c'est un masque fang, il n'était pas d'une exceptionnelle qualité. Donc il ne faut pas trop agir en connaisseur fin de l'art.
D'accord.
C'est un univers des formes qu'il faut montrer.
D'accord.
Voilà, pour reprendre une expression de Malraux, un musée imaginaire, une expression très galvaudée, mais sur laquelle il va vraiment falloir travailler, cette notion de musée imaginaire, qui est celle, je pense, des collectionneurs privés.
Mais donc, musée d'une collection exclusivement, ou est-ce qu'il y aura aussi des expositions temporaires? Qu'est-ce qui est prévu?
Alors, pour moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir justement mener une politique d'exposition temporaire autour de cette question de la collection, et justement présenter des collections privées.
D'art contemporain?
D'art contemporain, bien sûr, évidemment. Enfin, tout est possible. Peut-être aussi d'art africain, peut-être d'art médiéval, je ne sais pas. Pourquoi pas? Enfin, ça laisse un grand champ d'investigation possible à partir précisément de ces univers des formes, voilà, qu'il faut conserver.
Qu'il faut faire valoir.
Très bien. L'art contemporain, évidemment.
Écoutez, je crois qu'à une minute près, on est arrivé au terme de cet échange entre nous, mais peut-être maintenant il y a des questions dans la salle. Donc Nathalie Moureau voudrait poser une question. si on peut lui donner un micro. Les micros ont disparu. Ils sont pas là, les micros. Nathalie, on t'écoute.
Alors, c'est une vraiment très bonne question, effectivement. Merci. C'est vrai qu'il y a eu des commissions d'expertise, en fait, des experts qui ont regardé la collection. Et moi, je suis arrivée il y a 15 jours, donc j'ai eu ces rapports d'expertise qui sont extrêmement intéressants, et notamment les conservateurs du musée du Quai Branly qui ont donné un avis sur les œuvres qui étaient pour eux les plus exceptionnelles. Et au fond, c'est probablement une sélection qu'ils ont opérée si ces œuvres-là devaient aller au Quai Branly. Bon, c'est-à-dire prendre les œuvres les plus intéressantes, etc. Et je pense qu'il faut... voilà. Or, ce n'est... Exactement. Et c'est pour ça que... Voilà.
Pardon ? Oui, c'est ça. C'est voilà. Ça.
Alors... Mais les collègues du musée du Quai Branly,
du tilleul, ces mauvais artistes, voilà. On perd quelque chose d'essentiel. Enfin, les mauvais artistes en plus.
Oui, tout est relatif.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Voilà. Léon et Martine Kligman ont collectionné aussi bien les artistes que je vous ai montrés, mais comme il manque une partie du PowerPoint, c'est un peu ennuyeux. Mais il a aussi collectionné quelqu'un comme Georges Cars. Ils sont allés vraiment dans une direction très importante qui a, elle, été prise en totalité. Donc c'est intéressant parce que les experts ont considéré qu'effectivement c'était bien de conserver évidemment cette ligne. Et je crois que dans la deuxième sélection à la région, il faut justement ne pas dire il y a des bons, des mauvais. Et je crois qu'il faut assumer aussi peut-être les erreurs du collectionneur. Je trouve que c'est essentiel d'un point de vue muséographique de montrer ça. Et c'est là que je disais que l'appareil pédagogique est important, parce que c'est lui qui va évidemment contrebalancer cette présentation. Et ça va être la difficulté, parce que chez eux, par exemple, ils mélangent une tête de Derain, un masque mexicain, une tête africaine. C'est magnifique. Et ça prend sens. C'est un regard. Elle est artiste aussi, donc c'est aussi un regard d'artiste. C'est ça que je voudrais qu'on montre à Fontevraud, ce regard vraiment du collectionneur qui Balzac, qui est un grand écrivain, comme chacun sait, et qui a fait des typologies de collectionneurs, il parle à un moment de la princesse de Cadignan qui collectionnait en fait un livre avec les reproductions de ses anciens amants, et elle appelait ça mon recueil d'erreurs. Je pense que le recueil de mes erreurs, voilà. Et je pense qu'il faut aussi montrer peut-être les mauvais achats, si on peut dire justement les bons.
Sophie Lévy, je crois, veut dire quelque chose.
Non, je veux juste dire qu'il faut juste que ça reste dynamique, parce que ce qui nous a tous aussi marqués comme conservateurs, c'est Barnes. Et le problème de Barnes, c'est que c'est merveilleux, mais c'est figé.
Eh oui, problème.
Et donc, ce merveilleux figé clauses. Est terrible.
Problème des clauses.
Ça, c'est un enterrement de première classe.
Même
si, même si la proposition de Barnes est très très intéressante, mais ça ne peut pas être la seule de toute éternité, c'est pas possible.
Non, d'ailleurs, ça ne l'a pas été, puisque les Matisse se sont promenés finalement quand ils ont été présentés au musée d'art moderne à la ville de Paris.
Et puis
heureusement, rien n'est jamais éternel, pas plus l'art contemporain que les clauses.
Elle a carrément été déplacée à Philadelphie. Donc,
oui, en plus, déplacée à Philadelphie, tout à fait. Est-ce que vous avez, Evelyne et Jacques, Sophie, Dominique ou Henri, des questions à poser à vos voisins ou quelque chose à ajouter ? Non ?
Non, moi, ce qui m'a beaucoup frappé en discutant avec Henri, c'est que justement dans sa démarche où l'humain est central, enfin, je ne sais même pas si vous avez cherché à la définir comme ça, mais c'est comme ça que vous êtes. C'est que vous avez été un incroyable initiateur, je pense, pour pas mal de gens et finalement un agent secret de beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées, mais de manière toujours, toujours complètement désintéressée et toujours sous un angle comme ça, discrètement amical. Mais finalement, ça a une efficacité réelle. Donc, c'est ça qui me frappe.
Et on aura retenu qu'il y a un mot qui est cher à Sophie Lévy, c'est le secret. Merci beaucoup. Et je crois qu'il est prévu une petite pause avant de reprendre. Merci à vous.